Vous êtes sur RTL. 30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Et bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, les deux tiers de la France en alerte au pollen, alerte rouge. La fin de ce cold case vieux de 36 ans et le procureur de Grenoble n'exclut pas d'autres crimes, vous l'entendrez. Puis on vous emmènera en Iran où l'inflation dépasse les 40%.
Juste après le journal Dodo. Deux focus du jour. D'abord, la hausse des prix, plus 5 à 10 centimes pour la baguette dans une boulangerie sur deux. RTL a mené l'enquête et à 12h50, le vendredi 13, pourquoi sommes-nous si superstitieux?
Notre question du jour, justement, sur RTL.fr. Grand gagnant du loto, faut-il l'annoncer à ses proches? C'est toujours un dilemme, en effet.
Moi, j'ai gagné 200 millions et j'ai rien dit.
Ben, bien sûr. Vous entendrez en tout cas une grande gagnante qui a gagné 2 millions d'euros, qu'il a juste dit à son mari et à sa fille. Les auditeurs de RTL, eux aussi voudraient garder le secret à 59%. La météo, et c'est du beau temps, grand soleil sur la majeure partie du pays, même si ça risque d'être instable dans le centre-est. Attention notamment à d'éventuelles averses orageuses sur la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central ou encore le Jura pour cet après-midi. Les températures, elles restent assez estivales. Hein, 22 degrés annoncés à Paris, 21 à Marseille pour cet après-midi, jusqu'à 26 à Bordeaux et Lyon.
RTL Midi.
Vous avez peut-être depuis quelques jours le nez qui chatouille, les yeux qui piquent. Eh bien, rassurez-vous, rien d'inquiétant. C'est sans doute le pollen. Les deux tiers des départements français sont désormais en alerte rouge. On était à une petite vingtaine en début de semaine. C'est le cas notamment dans les Hauts-de-Seine, Aurélia Valarié.
Oui, et il ne m'a pas fallu longtemps pour croiser des personnes allergiques au pollen.
Ah bah vous tombez bien, parce que je crois que j'en ai attrapé dans un œil. Ah oui, c'est un peu rouge, je suis en train de le soigner.
Ça gratte vraiment dans les yeux, dans la gorge. Voilà, on pleure alors qu'on n'a jamais l'habitude de pleurer.
Je suis un malade du pollen. Oui. J'ai le nez qui coule chaque année. C'est la même chose, c'est la même souffrance.
Alors chacun a sa méthode pour soulager cette souffrance printanière.
Je mets mes lunettes parce que les lentilles, quand on va faire un jogging, c'est difficile. Après, on a le pollen dans les yeux.
Il faut éviter certains arbres, les platanes, les marronniers. Vraiment, les plus allergisants, c'est ceux-là. Et les bouleaux, oui.
Je porte les lunettes, le masque obligatoirement pour me protéger au maximum du pollen, voilà. Je prends un traitement particulier à la pharmacie.
Et effectivement, ça se bouscule un peu en ce moment. Philippe est pharmacien et il a fait les stocks pour satisfaire tous ses patients.
Des antihistaminiques, de quoi laver les fosses nasales, nettoyer les yeux, éventuellement un collier antihistaminique. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut donner en première intention.
Et autre conseil de notre pharmacien, pensez bien à vous laver les cheveux et le visage avant d'aller vous coucher.
Reportage signé Aurélia Valarié. Si vous êtes concerné, sachez-le, le cauchemar devrait durer encore quelques semaines. C'est ce que nous explique Sophie Silcré-Grieux. Elle est allergologue.
Les graminées sont en pleine floraison et les gens sont très, très gênés. Tant qu'il va faire beau, sec, avec du vent, ça ne va pas s'arranger. Ce qui peut arranger les choses, c'est la pluie. Mais oui, tant qu'on a beau temps, ça va continuer pendant les semaines qui viennent, c'est certain. Pour les gens qui sont allergiques au pollen de graminée, éviter d'aller faire du sport en pleine nature et en pleine journée, hein. Aérer sa maison, mais tôt le matin et tard le soir, quand les pollens sont moins présents dans l'air. Voilà les quelques conseils qu'on peut donner.
Des conseils signés Sophie Silcré-Grieux au micro RTL d'Agathe Landais.
Dans l'actualité également, la fin de ce cold case vieux de 36 ans.
RTL vous le révélait dès hier matin, un homme a reconnu avoir tué Marie-Thérèse Bonfanti, cette mère de famille de 25 ans, disparue en 1986 à Pontcharrat dans l'Isère. Ce matin, sur RTL, le procureur de la République de Grenoble n'a pas exclu que l'accusé ait commis d'autres crimes.
La question est évidemment sensible et évidemment qu'on se pose la question de savoir donc si Yves Chatin a commis d'autres meurtres. Voilà. Donc évidemment qu'on travaille sur cette hypothèse, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler et pour l'instant rien ne lui est reproché.
Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble sur RTL ce matin avec Yves Calvi. Bonjour Serge Puyot. Et c'est vous. Bonjour. Qui avez révélé cette affaire. C'est désormais presque une nouvelle enquête qui commence. On entend la prudence, la discrétion aussi des autorités.
Oui, les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble veulent éviter de subir une trop grande pression médiatique dans cette affaire. Ils travaillent donc discrètement, d'abord à la recherche du corps de Marie-Thérèse Bonfanti. C'est leur priorité. Yves Chatin, le suspect, leur a indiqué l'endroit où il se trouvait, un secteur visiblement difficile d'accès. Les gendarmes ne veulent pas de caméras, de journalistes à proximité, d'où là encore leur grande discrétion. Et puis les enquêteurs vont rouvrir d'autres dossiers de disparition de meurtre dans le secteur de Pontcharrat pour faire d'éventuels rapprochements avec une nouvelle relecture des dossiers en fonction de la personnalité d'Yves Chatin et de son mode opérationnel. Il avait l'habitude d'étrangler les femmes. Il avait procédé à des tentatives d'étranglement déjà par le passé. Il s'agit là d'un travail de longue haleine.
Serge Puyot en direct de Grenoble pour RTL. C'est cet après-midi qu'auront lieu les obsèques d'Antoine Aleno, décédé dimanche soir à Paris, percuté par un chauffard qui a depuis été mis en examen. Sur Instagram, son père Yannick lui rend hommage ce matin. Tu vas avoir un au revoir digne d'un prince, digne de toi, écrit-il. Tous ceux qui ont croisé ce sourire et ce regard se souviennent. Cet après-midi, le monde entier va venir te saluer. Je sais que tu vas être un peu gêné, mais c'est la rançon de la gloire, de ta gloire.
Attention, si vous bénéficiez des tarifs régulés du gaz, vous allez peut-être recevoir dès la semaine prochaine un courrier vous invitant à changer d'offre.
Et oui, parce qu'à partir de l'été 2023, ces tarifs régulés n'existeront plus. 2,8 millions de ménages français sont concernés. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Ça paraît complètement fou parce que c'est ce qui nous sauve aujourd'hui, ces tarifs régulés.
Oui, le tarif régulé ou réglementé, c'est la référence du prix du gaz en France. Il est calculé en fonction des marchés de gros. Avec la flambée des cours l'été dernier et des hausses jusqu'à 10% en à peine un mois, le gouvernement décide de le geler, c'est le bouclier tarifaire. Alors, certains fournisseurs alternatifs qui fixent librement leurs tarifs ont accepté eux aussi de bloquer les prix en échange de subventions de l'État. Mais ce n'est pas le cas de tous. Les petits fournisseurs ont parfois doublé leurs tarifs. Des milliers de particuliers se sont étranglés en découvrant leur facture de rattrapage. Pour la CLCV, c'est une sécurité qui disparaît puisque c'est l'existence même du tarif réglementé qui a permis à l'État d'intervenir. L'association de consommateurs argumente, pas de tarif régulé pour le fioul domestique qui sert aussi à chauffer, pas de bouclier tarifaire.
Pierre Herbulot du service économie de RTL. Et l'inflation qu'on connaît actuellement ne touche bien sûr pas que la France. On a beaucoup parlé de nos voisins européens ces dernières semaines. C'est le cas aussi et de manière encore plus forte en Iran, plus 40%, Émilie Beaujard.
Et oui, et ce qui provoque depuis plusieurs jours des manifestations, notamment dans le sud du pays. Et cela ne devrait pas se calmer puisque le gouvernement iranien a augmenté les prix de 300% hier sur l'huile, les œufs et le lait notamment. En quelques jours, l'huile est passée de 1 dollar le litre à 3,50 euros. Hier, les Iraniens se sont donc rués sur les supermarchés pour les piller. On les voit sur des vidéos remplir des sacs plastiques de toutes les denrées essentielles. Et puis il y a aussi des manifestations d'enseignants depuis plusieurs semaines qui réclament des hausses de salaire.
Et Émilie, c'est dans ce contexte de tension sociale que deux Français ont été arrêtés. Est-ce qu'on peut y voir un lien ?
Et c'est une possibilité, car la Française arrêtée est membre d'un syndicat enseignant et elle aurait pu rencontrer en Iran des syndicalistes de manière confraternelle. Mais pour les autorités iraniennes, c'est un motif suffisant pour être arrêtée. Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi en coulisses la reprise des négociations sur le nucléaire iranien, dossier hautement sensible. De nombreux observateurs accusent l'Iran de détenir des étrangers pour faire pression sur les Occidentaux dans ces discussions.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL, merci à vous.
Elon Musk donne des sueurs froides à Twitter.
Oui, après avoir annoncé qu'il allait racheter le réseau social pour 44 milliards, on en avait beaucoup parlé, et bien il annonce ce midi qu'il suspend l'offre. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait trop de faux comptes sur Twitter. Cela ressemble à une excuse pour stopper le rachat. En tout cas, les marchés financiers ne s'y trompent pas. Le titre Twitter a plongé de 20% à la bourse à la minute où Elon Musk a fait cette annonce. Et puis, les suites de l'affaire Orpea, le groupe d'EHPAD privé annonce lui des bénéfices en chute libre, moins 60% pour 2021. C'est la conséquence de la procédure de conciliation ouverte par le tribunal de Nanterre. Le groupe a dû provisionner 83 millions d'euros pour d'éventuelles indemnités.
Du foot et Karim Benzema entre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid.
Karim! Lo celebra el francés, se lo toma con filosofía el Real Madrid, también el público.
Ça, c'est la radio espagnole Marca. Hier soir, en inscrivant ce 323e but illégal, Karim Benzema, Raoul, deuxième meilleur buteur de l'histoire du club. Le meilleur buteur, c'est toujours Ronaldo. Hein, 451 buts marqués. Ça risque d'être difficile à détrôner. Et puis, on le disait aujourd'hui, c'est vendredi 13. Vous avez joué au loto, Pascal ?
Non, je joue à l'euro-million, les grosses cagnottes, mais je ne joue jamais au loto.
Bon, en tout cas, la Française des Jeux s'attend à voir aujourd'hui deux fois plus de joueurs qu'un vendredi normal. C'est le cas ici en métropole, mais aussi en Polynésie, à l'autre bout du monde. C'est là qu'en octobre dernier, une jeune femme avait remporté 220 millions d'euros à l'euro-million, justement. Leur fille Libéré sur place pour RTL.
Allez, approchez, approchez, faites vos jeux, messieurs, dames.
Le bureau de tabac de Damia et Laurent, à la sortie de Papeete, ne désemplit pas depuis plusieurs jours.
On va avoir une influence particulière le 13, parce que les gens sont quand même un petit peu superstitieux.
Après le gain record remporté à quelques kilomètres d'ici en octobre dernier, beaucoup espèrent que la chance frappe une seconde fois en Polynésie.
Souvent, les gens se plaignent en disant que c'est gagné ailleurs et jamais chez nous. Là, ils ne peuvent plus dire ça. C'est possible de gagner chez nous. On rêve un petit peu, bien sûr. Le rêve est permis.
Tonina, elle, se voit déjà
milliardaire. Ce matin, mon fils, il dit, allez maman, va jouer. On gagne, il y a le voyage. Le loto, c'est un pacton,
Je crois en la chance. Tout est possible.
Si je venais à gagner, j'achèterais des maisons un peu partout. Voilà, histoire d'avoir un pied-à-terre dans le monde, partout.
Et si le vendredi 13 est un jour de chance, c'est surtout pour les buralistes et organismes de jeu qui enregistrent 2 à 3 fois plus d'affluence que le reste de l'année.
À Papeete, le reportage pour RTL de Laure Philibert. 13 millions d'euros donc à remporter au loto ce soir. Nathalie, elle, en a gagné 2 millions d'euros en janvier 2021. Elle ne l'a dit à personne, sauf à son mari et sa fille. Témoignage rare, c'est un nom d'emprunt, bien sûr, recueilli pour RTL par Aurélia Valarie. Écoutez.
Moi, c'est vendredi 13 tous les jours parce que vous avez le choix de votre journée. Le matin, vous vous levez, toutes les complications, eh ben, on les met dans un coin et c'est pas grave. Mon mari a voulu s'acheter un beau bolide, il s'est fait plaisir. Moi, c'est arrivé un peu plus tard. Je préfère mettre dans les voyages, je préfère vivre en fait. Là, on a un secret de famille qui est l'un des plus beaux secrets de famille. Et je ne veux pas que mes amis changent envers moi. Faire plaisir aux autres, plaisir à ma famille sans qu'ils sachent, vous voyez. Je n'ai pas envie ni d'arrêter de travailler. Je reste dans ma vie, en fait.
Voilà, pour ce témoignage, la voix, vous l'aurez compris, a été modifiée.
Et c'est une question évidemment qu'on pose toujours aux auditeurs. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagniez 10, 15, 20, 50 millions?
Vous feriez quoi, vous?
Ben, je travaillerais. Évidemment, tu vas pas te mettre au soleil tout le temps à rien faire. Donc tu te trouves un projet professionnel. Tu rachètes RTL, je n'en sais rien. Pourquoi pas?
Mais pourquoi pas, un club de foot, non? Ça vous dit pas?
Non, non. Ça, je pense que les supporters... Non, non, là, c'est une très mauvaise idée que vous venez de dire. Il est 12h42, la hausse des prix, plus 5 à 10 centimes pour la baguette dans une boulangerie, on en parle à l'instant.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Si j'augmente un centime en plus, je perds mes clients. Peut-être on va augmenter d'autres produits, pâtisserie, snacking, mais au niveau de la baguette, on va doucement.
Pour l'instant, ce boulanger parisien a fait le choix, vous l'avez entendu, de ne pas toucher au prix de sa baguette. Reste à savoir jusqu'à quand. La question est un sujet sensible. La baguette, c'est un peu un baromètre, un produit qu'on achète en tout cas tous les jours. RTL a mené l'enquête auprès de 30 établissements dans 10 villes de France. Bilan, dans une boulangerie sur deux, le prix a récemment augmenté plus 5 à 10 centimes. Alors comment l'expliquer? La guerre en Ukraine est-elle la seule responsable? Faut-il d'ailleurs s'attendre à d'autres hausses de prix? C'est le premier débat de RTL Midi. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Confédération nationale des boulangers. Merci beaucoup d'être ici dans ce studio. Vous n'êtes d'ailleurs pas venu les mains vides. 5 à 10 centimes dans une boulangerie sur deux, c'est donc ce qu'on a constaté nous ici à RTL. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, vous?
Tout à fait. C'est très donc chaque boulanger est vraiment responsable des prix qu'il pratique. Donc selon comme il a négocié ses prix, avec quoi il chauffe, quel loyer il a. Alors effectivement, on a vraiment, c'est pas une ligne. Hein. Certains, par exemple, je parlais hier, n'a pas augmenté depuis 3 ans parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu de la concurrence, etc. Et d'autres ont décidé de, parce qu'on a eu différentes hausses successives quand même.
Alors c'est la hausse des cours du boulet, la première raison.
Alors, la première a été déjà l'électricité qui a commencé cet été. Vous savez que l'énergie est très importante chez nous, puisque tout est cuit, en fait. Tout ce qui passe, le pain, la viennoiserie. Donc, on a des grosses factures d'électricité. Et d'ailleurs, au mois de décembre, s'il n'y avait pas eu le gouvernement qui avait intervenu avec EDF, je pense que certains n'auraient pas pu payer les factures d'électricité. Donc, il y a l'énergie, déjà, qui est importante. Maintenant, il y a le blé. Alors là, donc, les meuniers qui étaient couverts jusqu'au mois de mai ont déjà commencé à passer des augmentations. Mais si on reste avec du blé 410 € la tonne, pas oublier qu'il y a
c'est
pas
quoi,
très
deux
longtemps.
Fois plus cher que...
C'est double, même plus du double aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des augmentations de farine de 20 à 30% sur l'énergie, plus sur la matière première.
Plus du double, dites-vous, mais quelle référence utilisez-vous? Plus du double de quand?
Plus du double d'il y a un an et demi.
Aujourd'hui, c'est-à-dire acheter du blé, ça coûte deux fois plus cher.
On est longtemps resté à 180.
En 18 mois, on a doublé.
Tout à fait, on était à 180 € la tonne. C'était quelque chose de très stable. On avait eu, il y a quelques années, une pointe d'augmentation qui avait duré 2 mois.
Donc, c'était avant l'Ukraine, ça.
Voilà, tout à fait. Donc ça
n'a rien
commencé
à voir avec l'Ukraine.
On est passé à 290 € là, à la rentrée. C'était déjà un peu près de 300 €. C'était quelque chose dû à la sécheresse, aux incendies qu'il y a eu. C'est-à-dire que le cours du blé mondial, coté à Chicago, et quelles que soient les cultures en France, bonnes ou mauvaises, de toute façon, le cours est mondial. Donc là, on était monté à la rentrée à 300 €. Et là, on pensait que c'était une pointe déjà un peu embêtante. Et avec la guerre d'Ukraine, donc les ports de la mer Noire bloqués, là, on se retrouve avec un déséquilibre. Et qui va être inquiétant d'ailleurs pour l'Afrique, puisque se fournissait beaucoup en Ukraine, en Russie. Et là, on est déjà avec des blés qui sont montés à 460 € il n'y a pas longtemps. Donc là, si les meuniers, leur matière première principale double, et ou même plus ce qui se passe là, effectivement, on va avoir des augmentation de farine très importante.
Alors, si je prends les jolies baguettes que vous nous avez amenées, en 2021, d'après l'INSEE, le prix moyen de la baguette en France, c'était 89 centimes. Aujourd'hui, nous, en tout cas, d'après les calculs qu'on a fait, oh là là, mais rien que le bruit, vous entendez le bruit de... Hein ? Il a l'air bon, ce pain. Juste au bruit, vous allez goûter, Pascal, pendant que je parle. Nous, donc, dans nos calculs, Dominique Enract, on est à 1,03 € en moyenne. Si je prends la baguette, comment se décompose le prix ? La part de la farine, justement, combien ça coûte ?
Voilà, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en 20 ans, la baguette a pris 23 centimes. Donc, c'était quelque chose de vraiment très stable. Alors, elle était 0,89 tout marché confondu en France. Hein,
c'est ça que vous m'étonnez, centimes. Parce que 1 euro la baguette, ça fait quand même 6,50 € en francs. Et vous me dites qu'elle n'aurait pris que 23 centimes.
Tout à fait. La baguette
donc elle n'aurait pris que 1,50 €, si j'ose dire.
Tout à fait.
Moi, je n'ai pas souvenir d'acheter une baguette sans 1 franc.
Hein. Vous donnez les données de l'INSEE. La baguette, quand c'est passé à l'euro, elle est à 4,60 €. Tout le monde pensait qu'elle était à 1 franc, mais pas du tout. Et ça, ce sont des données INSEE. Hein. C'était 4,60 € la baguette. Non, mais c'est bon.
Non, mais si vous le dites, je crois, mais c'est vrai que ça m'a surpris
tout à fait. Et alors, ça a pris 23 centimes en 20 ans. Alors, comment ça
se décompose ? Oui, comment elle se décompose ?
Elle se décompose, si vous voulez, vous avez déjà la matière première, ce qu'on parle. Alors, il y a la farine, mais pas que. Il y a la levure, qui a des gros problèmes aussi en ce moment, la guerre Ukraine. Vous avez l'emballage, vous avez le florage, vous avez. Bref,
c'est
tout
quoi
ça,
on est à peu près.
Le florage, en fait, pour pas que la pâte colle, on projette de la farine. Vous savez, ce geste qu'on envoie pour qu'il y ait une espèce de poussière de farine qui empêche que la pâte colle. C'est un mot vraiment très, très professionnel. Donc là, vous avez, en gros, on est à 13 à 15% de matière première. Ensuite, vous avez le poste le plus important, c'est la masse salariale. Alors, selon, c'est une petite grosse entreprise, si elle sert du gérant, on est entre 30 et 40%. Ça, c'est le plus gros poste. Ensuite, vous avez toutes les charges fixes et externes. Alors, ça va être l'énergie, ça va être l'énergie, l'eau, ça va être les leasings, ça va être les taxes, etc. Donc là, on est à peu près à 32%. Grosso modo, ça se décompose comme ça. Alors ensuite, il y a le bénéfice ou le salaire du gérant. Bref, en gros, c'est vrai que sur une baguette, en moyenne, quand vous arrivez à tirer 10 centimes, c'est pas mal.
C'est pas sur ça que les boulangers font.
Si vous voulez, tout est rentable dans un produit. Il faut pas avoir de pertes, il faut le gérer intelligemment. Et puis on va aussi sur la quantité. Parce que c'est vrai qu'une baguette, même qui vaut 1 euro, quand vous voyez un four, c'est 40 000 euros, un pétrin, 10 000 euros, le SMIC est à 1 600 € brut. Donc tout ça fait qu'il faut quand même avoir beaucoup de baguettes et aussi d'autres produits. Mais bon, c'est un produit sacro-saint qu'on ne veut surtout pas passer et aussi qui nous fait venir les clients tous les jours et sur lesquels c'est une masse.
Eh bien, vous allez rester avec nous, avec les auditeurs. Temps de vie d'une baguette ?
Moi, je vous dirais recommander 24 heures, puisque ce n'est pas un produit de garde, c'est un produit qu'on fait tous les jours.
Ça dépend de la météo aussi, hein, voilà, quand c'est un peu orageux, le pain devient plus mou.
Mais vous savez, si vous le mettez dans ce sac papier que je viens de vous apporter, avec lequel on voudrait supprimer tous ces sacs papier, 6 milliards de sacs tous les jours qui vont à la poubelle. Hein. Donc, ça a tendance plutôt à se conserver. Et puis, on peut le donner un petit coup de four, on peut le griller.
C'est combien de grammes, une baguette ?
Alors, il n'y a pas de... Généralement, c'est les us et coutumes, c'est 250 grammes, et c'est voire
100...
200.
D'accord. Et on doit manger à peu près 100 grammes de pain par jour.
C'est ça, à peu près une demi-baguette.
Une demi-baguette. Il est 12h51. Celle qui nous tient la baguette aujourd'hui, c'est Sophie Orange, qui a la rédaction en chef. Donc, la pause, à tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Le vendredi 13 mobilise effectivement plus de joueurs que la normale. On est en général sur un doublement à peu près du nombre de joueurs. On a beaucoup de joueurs occasionnels, qu'on voit assez peu finalement en point de vente, qui s'y rendent ce jour-là. Du fait de cette superstition ou du fait de l'entourage qui va jouer et dont il les accompagne, etc., qu'on ne voit pas habituellement dans ces points de vente.
Vous serez ce soir nombreux à scruter les résultats du loto. Deux fois plus, vous venez de l'entendre, qu'un vendredi normal depuis quelques années. Ce vendredi 13 est en effet considéré comme un jour de chance pour beaucoup. Un Français sur trois, on est même persuadé, hein, si l'on en croit ce sondage IFOP publié aujourd'hui, ils étaient deux fois moins il y a 10 ans. Alors comment l'expliquer ? Pourquoi croit-on au vendredi 13 ? Ces superstitions sont-elles d'ailleurs une bonne chose ? Que disent-elles de nous ? C'est notre deuxième débat. Bonjour Dominique Desjeux.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue à l'université Paris Descartes. Dominique Enracte est resté avec nous parce qu'il y a beaucoup de superstitions aussi autour du pain. Dominique Desjeux, d'abord, ce vendredi 13 donc, est devenu, je le disais, jour de chance. C'est quoi ? Grâce à la Française des Jeux ? Alors, ou à cause ?
Il y a deux choses différentes, mais tout le monde connaît l'origine. Il faut quand même prendre comme une mythologie et non pas comme une foi. C'est le Christ est mort le vendredi et le 13, il y avait la scène où il a mangé avec ses 13 apôtres et puis il y en a un mec qui s'appelait Judas. Et comme disait Guy Bedos, avec un nom comme ça, à la place de Jésus, moi je me serais méfié. C'est de l'humour et il vaut mieux parce que toute cette histoire-là date à peu près 70 ans après la mort de Jésus, au moment où il y avait des batailles entre des fractions juives. Donc c'est comme ça qu'il faut la comprendre. C'est devenu vendredi et 13 deux termes négatifs. Et c'est dans les années 30, au moment du loto, j'ai oublié son nom à l'époque, qu'il y a eu un retournement.
Pardon ? C'était la loterie nationale.
Voilà, c'est ça, c'était la suite, vous savez, des gueules cassées. Mmh. Donc il y avait une loterie pour essayer de financer tous les blessés de la Grande Guerre de 14-18. Et donc là, on a fait quelque chose qui est assez classique dans toutes les sociétés. C'est pour ça que je parle de pratiques magico-religieuses pour essayer d'éviter le mauvais sort, on prend ce mauvais sort et on le retourne pour en faire un sort positif. Quand vous connaissez un peu les sociétés du Maghreb, vous avez la main de Fatma, et quand vous voulez éviter les mauvais sorts, vous faites 5-5-5, ou vous faites poisson-poisson, et vous retournez un signe qui est maléfique en signe bénéfique. Est-ce que ça marche ? En pratique, c'est un autre problème que je ne peux pas résoudre. Vous savez, quand j'ai travaillé sur la sorcellerie au Congo, au début, je ne voulais pas m'en occuper d'abord. J'étais dans un village. Et puis, au bout d'un certain temps, c'est tellement important que j'ai essayé de comprendre. Et en réalité, il faut comprendre que c'est une solution dans l'imaginaire à des problèmes quotidiens. On a peur, il y a des angoisses. C'est le deuxième problème qui vient d'être posé avec le pain, qui est très intéressant. Qu'est-ce qui fait, et c'est le sondage de l'IFOP qui le montre, hein, ça m'a beaucoup frappé, que les entre guillemets, superstition augmente. Pour moi, c'est des pratiques magico-religieuses. Il est probable que c'est lié à de l'angoisse, c'est pas très compliqué à voir, que cette angoisse démarre dans les années 2000, si on regarde bien. Et moi qui travaille depuis 25 ans en Chine, j'ai pu observer dans les années 2005-2010 la montée de tous les cours des matières premières et de toutes les dépenses contraintes des Français. Et l'angoisse démarre là. Et on la voit aujourd'hui depuis 3 ans. Elle monte et avec ça, la montée des croyances en réalité. Et quand vous regardez l'IFOP, c'est intéressant, vous trouvez que c'est plutôt des jeunes, plutôt des femmes, plutôt des gens qui votent Zemmour, et des gens qui sont au niveau bac ou en dessous du bac.
30% des Françaises disent superstitieux, selon ce sondage, c'est 7 points de plus qu'en 1990.
Oui, ça qui est frappant.
Et 7 Français sur 10 disent avoir l'impression de ne pas être chanceux, et là c'est 11 points de plus qu'en 2014.
C'est quoi être superstitieux ?
Mais pour moi, tout le monde est superstitieux au sens qu'on a des croyances. Et on ne peut pas vivre sans croyance. Être superstitieux, c'est attribuer à des puissances, dans toutes les sociétés où j'ai été, entre la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Afrique où j'ai vécu 8 ans, ou la France, partout, on observe ça, d'une façon ou d'une autre. On estime qu'il y a des puissances qui nous gouvernent. Au pire, on va tomber dans la théorie conspiratoire, mais c'est la même chose. Hein. C'est, on va estimer qu'il y a des gros qui sont cachés et qui nous manipulent. Mmh. La superstition, c'est le même mécanisme. On estime qu'il y a des forces qui nous gouvernent et en fonction de notre croyance, on va estimer que ça va être positif ou négatif.
Si c'est
on
par prend exemple le pain, porter la même chemise.
Pardon,
c'est porter la même chemise à un examen, par exemple.
Ben ça, c'est
pensez
exactement
que c'est cette chemise-là qui va nous faire gagner.
Ah, vous avez raison, pratique magico-religieuse. Si vous prenez le pain
le
et vous
pain
le retournez.
À
ah oui. Alors, il y a plusieurs explications. Moi, celle que j'ai, bah, t'es donné un jour par ma compagne, elle m'a dit à l'époque, eh ben, si on retourne le pain dans le mauvais sens, c'est les marins bretons qui sont en mer qui vont faire un naufrage.
Moi, on me disait, c'est du pain mal gagné. Dominique Anrac.
Oui, nous, ce qu'on dit beaucoup dans le métier, c'est que le pain à l'envers, c'était celui du bourreau. Mm. Donc, c'est, mais on voit, il n'y a pas de pain à l'envers dans les boulangeries.
Mmh, jamais.
Bah, écoutez, c'est trop court. Vous allez peut-être rester encore quelques secondes avec nous.
Et j'en profite pour signaler votre livre, Dominique Desjeux, Le marché
gentil.
Des dieux, comment naissent les innovations religieuses du judaïsme au christianisme. C'est publié chez PUF.
Vient de sortir. C'est tout chaud comme le pain.
Mais c'est rare qu'on...
Vous gardez notre casting.
Exactement, hein, c'est rare qu'on propose ça, mais
oui, c'est vrai,
restez un petit peu quelques secondes avec nous. Cette émission est ouverte, donc il est à 12h59, et puis les auditeurs... Ça, c'est un thème qui passionne les gens, forcément, la superstition.
Bah, c'est la base de la vie sociale. Hein.
À tout de suite.
RTL Midi.